carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Dans une précédente émission, Daniel Piston nous a présenté les musiques apolliniennes de la nuit paisible. Et aujourd'hui, nous parlerons de musique dionysiaque, c'est-à-dire des musiques infernales, parfois sauvages, même si la nuit terrifiante au début devient peut-être réconfortante quand elle a accompli son œuvre diabolique. Nous voyons ça. Bonjour Daniel Piston.
Bonjour.
Quels sont les thèmes de ces nuits infernales, fantastiques, et quels musiciens, quelle musique nous avez-vous apporté ?
Alors, avoir peur du noir, c'est quelque chose d'assez courant. Avoir peur de la nuit, avoir des terreurs nocturnes, c'est assez banal. Donc il est normal que nos musiciens aient voulu rendre, à travers leur art, ce sentiment assez courant. Si nous cherchons bien, nous verrons que c'est autour des nuits fantastiques que gravite peut-être un premier ensemble d'œuvres. Et ce premier ensemble d'œuvres, on peut le situer en Allemagne.
Le monde des sorcières ?
Peut-être, je dirais, le monde de l'alcool autour des bougies vacillantes. Et là, j'en viens à Hoffmann, Ernst, Theodor Amadeus. Il s'est donné lui-même ce prénom,
oui,
Amadeus.
En honneur à Mozart.
À Mozart, qui était donc écrivain et compositeur, et qui montre bien dans ses contes fantastiques ou ses contes nocturnes cet univers, justement, d'une nuit un peu inquiétante.
Il faut dire qu'il aimait bien le punch, lui. Alors
justement,
peut-être qu'il connaît bien tout ça.
C'est pour ça. Et ses œuvres rendent bien compte de ça. Et je pense que le premier fantastique, il arrive par là. Certes, le thème de la nuit en littérature n'était pas vraiment nouveau. À l'époque où écrit Hoffmann, il y avait toute la poésie des tombeaux, Jung, au milieu du XVIIIe siècle. Inquiétante aussi, puisque la nuit, c'est aussi la nuit des tombeaux, la nuit de la mort. Je pense au très fameux hymne à la nuit de Novalis aussi.
Oui, qui parlait d'amour, mais de mort.
Tout à fait. Il parlait de cette nuit ineffable, mystérieuse. Et ses hymnes, il les a quand même écrites après la disparition de celle qu'il aimait. Donc c'est une poésie de la mort que cette poésie nocturne de Novalis, qui constitue sans doute un des sommets de notre littérature. Donc tout ça, c'est avant le moment où nous prenons connaissance de cette littérature hoffmannienne qui devait tellement marquer les nuits fantastiques. Alors Hoffmann a impressionné beaucoup de musiciens. En France, on connaît les contes d'Hoffmann, d'Offenbach,
oui,
encore sous la Troisième République. Mais l'un des tout premiers célèbres musiciens à avoir été impressionné, c'est Schumann. Schumann qui écrit des pièces de fantaisie et des pièces nocturnes qui viennent très directement d'Hoffmann. C'est donc une autre nuit que la nuit des berceaux, que la nuit calme, que la nuit sereine. C'est une nuit habitée. Et habitée en général par des réalités insaisissables. Encore une fois, celle que l'on peut imaginer quand on a bu beaucoup de punch derrière la flamme des bougies. Et quand on écoute les compositions de Schumann qui ont rapport à la nuit, alors j'écarte peut-être tout ce qui serait lié au soir, à la paix du soir, bien sûr, à la prière, qui est importante dans cette civilisation. D'ailleurs, chorale, son de cloche qui teinte dans la nuit, c'est chez beaucoup d'autres musiciens. Donc il y a toujours une frange des musiques de la nuit qui peut côtoyer le religieux. Et j'en viens proprement à ce côté plus fantastique, donc que nous n'avons pas dans la France de cette époque-là. Et si nous regardons, par exemple, un ensemble de pièces dont Schumann disait qu'elles étaient parmi ses meilleures pièces, ce sont donc les pièces de fantaisie, Fantasiestücke, opus 12. Et là-dedans, nous sommes dans les années 1830, il y a par exemple une pièce qui s'appelle « Dans la nuit ». Et je vous propose que nous écoutions cette pièce parce que, comme vous allez le voir, ce n'est pas du tout le tempo que nous attendons pour les musiques nocturnes. Et l'on voit bien, je crois, là, vaciller, passer ces ombres parfois terrifiantes.
Est-ce que l'on ne voit pas aussi les ombres terrifiantes propres à Schumann ?
Certainement, vous savez
que... Ce n'était pas que culturel, c'était aussi
psychologique. Oui, Roland Barthes a écrit que si l'on voulait aimer Schumann, c'est qu'on s'approchait d'une philosophie assez spéciale, et dit-il, pour parler en termes schumanniens, une philosophie de la nuit. Effectivement, ce sont tous ces fantasmes, ces fantômes qui ont certainement...
C'est un peu démonique chez Schumann.
Oui, qui ont habité l'esprit de Schumann, peut-être plus que d'autres. Mais là, nous sommes en 1837, il n'a même pas encore épousé Clara.
Oui, donc il n'a pas de problème mental.
C'est vraiment l'héritage d'Hoffmann. C'est dans toute sa splendeur l'héritage d'Hoffmann. Écoutons dans la nuit. Ce qui fait aussi la différence entre cette musique schumannienne et le prototype, peut-on dire, des nocturnes de Chopin comme musique de la nuit, c'est la fragmentation, ces motifs fragmentés, ces courts motifs qui jaillissent sans arrêt, alors que la phrase chopinienne vient du bel canto. D'ailleurs, Chopin, il faut le souligner aussi, a abandonné ces mesures ternaires qui venaient de la romance pour étaler les phrases de son nocturne dans la plus confortable des mesures que nous avons dans notre Occident, c'est la mesure à quatre temps, avec des thèmes qui prennent beaucoup d'espace. Ici, c'est le contraire. C'est un court motif qui n'arrive pas vraiment à se réaliser, qui revient, qui s'égare. Donc une écriture véritablement de la nuit fantasmatique. Et cette nuit, un peu fantastique, il est sûr qu'elle a été portée aussi par certaines des légendes à succès de l'époque romantique. Et je pense à Faust. Hein, comment ne pas évoquer la nuit quand on parle de Faust? Pratiquement toutes les scènes de Faust, toutes les œuvres qui évoquent Faust passent par minuit. Parce que la nuit...
Tout bascule.
C'est la nuit de tous les possibles. Que vous voyez arriver comme chez Cazotte, un chameau qui entre par la fenêtre et qui va laisser échapper un chien, hein, que vous voyez arriver un barbet, que vous voyez arriver Méphisto comme un diable policé, ce qui est le cas dans tous ces grands opéras de l'époque romantique bourgeoise, la nuit peut tout engendrer. Donc, dans la gamme du fantastique, il se serait intéressant d'examiner les musiques de Faust. Et s'il y a un musicien en France qui a bien illustré le thème.
C'est Berlioz.
Berlioz qui s'est intéressé à Faust à de multiples reprises. D'abord très jeune, il écrit des scènes de Faust, et puis ensuite, vers la fin de la période romantique, en 1846, la fameuse damnation de Faust. Car Berlioz n'écrit pas un Faust, il damne son Faust, c'est une damnation de Faust. Et dans cette damnation, il y a un épisode particulièrement saisissant par son rythme, saisissant par l'opposition, le contraste entre un cœur de paysan
qui prie, comme qui vous disiez prie, tout à l'heure, qu'il prie quand
un
même.
Un cœur de paysan qui prie et une chevauchée nocturne tragique, Méphisto et Faust. Et Berlioz ne recule devant aucune innovation. Il va même chercher au cuivre, parce que les cuivres sont souvent des instruments ou sacrés, ou au contraire, qui expriment la violence, la damnation. Il va chercher ce qu'on appelle les sons pédales de trombone, c'est-à-dire des sons encore plus graves que la dernière note du trombone de l'époque. Et on entend ainsi, vous l'écouterez dans l'extrait, une espèce de rugissement, de barrissement, on ne sait pas trop ce que c'est, qui sont ces sons de l'extrême grave du trombone, qui sont censés figurer toutes ces créatures monstrueuses ou inquiétantes qu'ils rencontrent dans leur chevauchée fantastique. Écoutons peut-être cette cavalcade nocturne et terrifiante qu'est la course à l'abîme de la damnation de Faust.
Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. Ô pauvre abandonné, ses enfants, à ses femmes, priant aux pieds de cette croix. Et qu'importe, on a beau. Passé sonne déjà pour elle. As-tu peur?
Nous avons entendu un musicien français, mais les musiciens russes, avec tout cet imaginaire slave, doivent aussi bien aimer. D'abord, il y a la nuit sur le Mont Chauve. Ce n'est qu'un exemple, n'est-ce pas?
La nuit sur le Mont Chauve est sans doute la pièce la plus célèbre qui illustre cette tendance. Les sorciers, les sorcières. Il y a très souvent dans la nuit slave quelque chose de magique, une force qui guette. Et cette force n'est pas toujours bienfaisante. D'ailleurs, vous savez bien que toutes les civilisations ne connaissent pas le diable, notre diable, si j'ose dire, mais lorsqu'ils ne connaissent pas, lorsqu'ils n'ont pas façonné ce type de personnage, en général, il y a des forces malfaisantes. Et la nuit slave est une nuit, pour moi, qui ne suis pas slave, souvent très inquiétante. On le vit beaucoup dans l'opéra, chez Rimsky-Korsakov par exemple, plusieurs opéras font référence à la nuit. Vous avez cité La nuit sur le Mont Chauve, encore une fois, qui est la plus connue, mais parfois, même dans des berceuses slaves, perce quelque chose qui n'est pas, si j'ose dire, la sérénité.
Il y a beaucoup de mélancolie.
Voilà, la sérénité de nos berceuses occidentales. Il y a quelque chose qui peut être un symbole, qui peut être une force latente. Un peu comme, si vous vous souvenez de la première émission sur La nuit sereine, dans cette berceuse de Stravinsky, de L'oiseau de feu, il y a quelque chose d'inquiétant. Et c'est bien d'une opposition entre force malfaisante et bienfaisante qu'il s'agit.
Oui, ce sont des nuits où on sent un déchirement de l'âme.
Sans doute.
Loin de toute sérénité.
Sans doute.
Mais en ce qui concerne nos nuits infernales, les nôtres, c'est-à-dire toutes ces nuits où on fait appel au surnaturel et aux éléments maléfiques, est-ce qu'on en a dans notre siècle des exemples un peu précis ?
Le nôtre, le 21e,
oui,
est encore un peu court, mais si on regarde le 20e,
oui,
le siècle qui vient de s'écouler, c'est sûr qu'il y a des musiques de la violence, comme il y en a eu peu par le passé. Quoique, nous pourrions remonter à certaines partitions du 18e siècle. Je pense par exemple aux éléments de Jean Ferry Rebel. Comment traduisait-on le chaos ? Comment traduisait-on la nuit ? C'était bien comme quelque chose qui nous était presque incompréhensible. On a même ça encore dans la création de Haydn. C'est-à-dire que ces musiques, si vous voulez, de la nuit, qui symbolisaient le chaos, déjà autrefois, étaient des musiques aussi inquiétantes que possible, avec les moyens de l'époque. Alors c'est vrai que le XXe siècle a été le siècle de la percussion, hein, des instruments à vent et de la percussion. Donc le XXe siècle a pu s'en donner dans les musiques de la violence, qui parfois étaient nocturnes, a pu faire des choix extrêmement variés, parfois extrêmement saisissants. Hein. Je pense notamment à l'opéra expressionniste, par exemple à Wozzeck de Berg. On pourrait penser aussi à tout cet héritage d'Oscar Wilde. Wilde dans Salomé qui montre cette lune rouge. Alors, je veux bien que la lune soit comme un ballon rouge en Sicile, moi je l'aime beaucoup, mais là c'est une lune pleine de sang, hein, que celle de Salomé. Et c'est vrai que les partitions de Salomé, je pense notamment à Strauss, hein, sont des partitions d'une extrême violence. Donc là, grand renfort de percussions, d'instruments en cuivre, des oppositions de nuances extrêmement marquées. C'est vrai que le XXe siècle a connu l'extrémité de la violence, et dans les musiques dites populaires modernes, il est sûr qu'il y a des formes de rock, qui sont dites d'ailleurs rock satanique quelquefois, hein, ou dans les musiques techno, il y a des musiques qui peuvent atteindre aussi des sommets de violence. C'est notre façon peut-être d'exprimer le chaos. Hein, Rebel, Haydn l'ont exprimé avec les moyens de leur temps. Aujourd'hui, où nous pouvons créer des sons inouïs au sens fort, hein, où l'électronique, l'informatique nous permet en fait d'utiliser toute la gamme des sons qui pour nous sont audibles. Nous avons une oreille assez limitée. Je dirais peut-être en l'occurrence, heureusement. Hein. Mais imaginez l'effet que peuvent faire certaines musiques sur des animaux qui sont beaucoup plus sensibles que nous au son. Donc c'est vrai que la violence, l'horreur, justement tout ce qui peut échapper à la raison, hein, on rejoint là cet univers dionysiaque opposé à l'apollinien, tout ce qui peut échapper au raisonnable, c'est la porte ouverte à tous les extrêmes. Comme je le disais, la nuit, c'est le moment de tous les possibles, donc les musiques nocturnes peuvent ouvrir la porte à tous les extrêmes.
Daniel Piston, vous nous aviez bercé, et moi la première, dans une précédente émission, de votre voix douce et chaude, avec les nocturnes de Chopin, les rêves de Liszt. Et aujourd'hui, dans les pas inquiétants et même les cavalcades de Berlioz et Schumann, votre voix, votre rythme à vous était habité par le mystère et les sortilèges. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.